Radio Prague, les informations. Bonjour, la Chambre des députés a adopté la loi sur les modalités de l'élection présidentielle au suffrage universel. La police demande la levée de l'immunité parlementaire de la vice-présidente de la Chambre des députés. Puis enfin football, victorieux de la Grèce 2-1, les Tchèques se sont relancés dans la course à la qualification pour les quarts de finale de l'Euro 2012. Comme annoncé en titre, la Chambre des députés a adopté ce mercredi la loi relative aux modalités de l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Les députés ont également ajouté au texte les montants limites pour le financement des campagnes électorales. Les dépenses ne pourront ainsi pas excéder 40 millions de couronnes, soit 1,5 million d'euros et 10 millions de couronnes, 400 000 euros respectivement pour les premiers et second tours. Le projet de loi doit désormais être soumis à l'examen du Sénat. Jusqu'à présent, le chef de l'État tchèque était élu, rappelons-le, par les deux chambres du Parlement. L'élection de successeur de Václav Klaus au château de Prague se tiendra début 2013. La police a demandé ce mercredi à la Chambre des députés de lever l'immunité parlementaire de sa vice-présidente, Vlasta Parkanova. La police soupçonne celle-ci, ancienne ministre de la Défense, d'abus de pouvoir lors de l'achat douteux de 4 avions militaires, CASA. L'achat de ces avions avait été approuvé en 2009 par la coalition gouvernementale du Premier ministre Mirko Polanek, peu avant sa démission. L'achat avait éveillé dès le début des soupçons et des critiques en raison du prix très élevé de la commande. La commission des mandats et des immunités de la Chambre des députés a fait savoir qu'elle examinerait la demande de la police mercredi prochain. La direction des routes et autoroutes a annulé la majorité des appels d'offres qui avaient été lancés pour les différents projets et travaux d'ingénierie relatifs à la réalisation de voies rapides et des autoroutes dans le pays ces prochaines années. L'information a été communiquée par le ministère des Transports. Les commandes ayant été passées en une seule fois, le ministère redoutait que le prix final soit plus élevé que si les appels d'offres avaient été lancés successivement. Le ministre Pavel Dobesch a néanmoins précisé que cette décision ne signifiait pas l'abandon des projets de travaux. Parmi les principales voies de communication concernées figurent notamment certaines nouvelles portions de l'autoroute et de la route qui doivent relier Prague à l'Autriche ou encore les parties nord-ouest de la voie périphérique autour de Prague. La Chambre des députés a approuvé l'amendement à la loi prévoyant une réduction de la valorisation des pensions de retraite. Cette mesure, qui prévoit une valorisation à hauteur d'un tiers du niveau de l'inflation et d'un tiers de la croissance des salaires réels, devrait être appliquée pour les 3 prochaines années. Jusqu'à présent, la loi permet de modifier le montant des pensions de retraite selon le taux d'inflation. Apposé au projet et majoritaire au Sénat, l'opposition de gauche entend toutefois renvoyer le texte à l'examen de la Chambre basse. La Chambre des députés a approuvé l'amendement à la loi qui doit permettre de modifier en profondeur le système d'aide sociale à l'enfance. Le but de cet amendement relatif à la protection sociale et juridique de l'enfant est de réduire le nombre d'enfants en difficulté grandissant dans divers centres d'accueil et d'augmenter le nombre de familles d'accueil. Le ministère du Travail et des Affaires sociales espère pouvoir compter sur un nombre de 300 à 500 familles d'accueil dans un proche avenir. Ce nouveau texte prévoit entre autres de rémunérer les grands-parents accueillant leurs petits-enfants selon leur situation sociale, le nombre d'enfants accueillis ou s'il s'agit d'enfants handicapés. Par ailleurs, les rémunérations qui devraient être augmentées des familles d'accueil ne seraient plus considérées comme des allocations sociales mais comme des salaires. On passe au sport et au football. L'équipe de République tchèque a battu la Grèce 2-1 mardi à Wrocław à l'occasion de son deuxième match dans le groupe A du championnat d'Europe. Cette victoire permet aux Tchèques de se relancer dans la course à la qualification pour les quarts de finale après leur lourde défaite 4-1 concédée contre la Russie pour leur entrée en matière dans la compétition. La Pologne et la Russie n'ayant pas pu se départager dans l'autre match qui s'est soldé sur un résultat de 1-1 mardi, la République tchèque occupe désormais la deuxième place de son groupe avec 3 points. Le match décisif pour la qualification pour les quarts de finale sera disputé samedi avec la Pologne qui accueillera donc la République tchèque. On termine avec un mot de météo. C'est un temps variable qui continue de régner ce jeudi, jour de la fête des Rolands. Des averses un peu plus abondantes sont prévues dans le nord et l'est du pays. Les températures sont stables et varient entre 15 et 20 degrés pour les maximales. Le retour progressif du soleil est attendu à partir de vendredi. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Une suite qui vous est présentée par Magdalena Rosinkova. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de ce magazine d'actualité de Radio Prague et merci à Guillaume Narguet pour son bulletin d'information. Lancé il y a un an par le ministère de l'Éducation, le baccalauréat national est contesté tant par les élèves que par leurs professeurs. Les raisons de l'échec de ce projet de grande envergure qui avait pour ambition de réformer les examens du baccalauréat dans cette émission. Ensuite, vous entendrez le paysagiste français Xavier Perrault qui a présenté à Prague son concept de jardin imaginaire. Dans la rubrique historique, aujourd'hui, nous donnerons la parole à Alice Lovejoy. C'est une historienne du cinéma américaine qui nous parlera de son étude sur le film militaire tchécoslovaque. Très bonne écoute à toutes et à tous. Serait-ce le chant du cygne du baccalauréat national lancé en grande pompe il y a un an au terme de plusieurs années de préparation? Dès le début, cette réforme du baccalauréat a été accompagnée de son lot de controverses. Les deux éditions qui ont eu lieu se sont retrouvées sous le feu des critiques et le Premier ministre vient de sérieusement enfoncer le clou. Anna Kubišta.
Tento model státních maturit je podle mého názoru mrtvý.
Ce modèle de baccalauréat national est selon moi mort. Le message est clair, le Premier ministre Petr Nečas n'y est pas allé par quatre chemins pour exprimer son sentiment quant à la forme et au fond du baccalauréat national mis en place l'an dernier et dont la deuxième édition, tout aussi controversée que la première, s'est déroulée au début du mois de mai. Dès la fin des épreuves, le tout nouveau ministre de l'Éducation, Petr Fiala, à peine installé à son poste, avait dû faire son mea culpa suite à la grogne des bacheliers. Ceci dénoncer des épreuves de mathématiques trop dures pour le temps imparti. Entre-temps, d'autres plaintes ont vu le jour, critiquant les correcteurs des épreuves, tous recrutés par le CERMAT, l'agence qui prépare les examens de la maturita. Et il y a quelques jours, le ministre de l'Éducation a révoqué Pavel Zelený, le chef de cette agence très controversée. Aujourd'hui, l'avenir du baccalauréat tchèque est peu clair. Quel type d'épreuve y aura-t-il l'an prochain? Pour Petr Nečas, en tout cas, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.
Je dois insister sur le fait que les membres du Parti civique démocrate EDS étaient contre le lancement de ce baccalauréat, mais ils ont été contraints par leurs partenaires de la coalition. Le temps a montré que nous avions raison et que ce projet n'est pas viable. D'un autre côté, le baccalauréat est une épreuve importante qui doit assurer trois choses. Établir les limites du niveau d'instruction minimal, permettre une comparaison entre les établissements et à l'avenir remplacer les examens d'entrée à l'université. À l'heure actuelle, aucun de ces critères n'a été rempli.
Si l'EDS déclare aujourd'hui n'avoir pas voulu de cette forme du bac, il a toutefois été approuvé par l'ensemble de la coalition. Et aujourd'hui, certains membres de l'EDS, comme le député Boris Chiasny, vont bien plus loin que le Premier ministre et demandent une suppression totale de l'épreuve telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors comment les futurs élèves de terminale de la rentrée 2012 vont-ils pouvoir se préparer à une épreuve encore inexistante? Le flou demeure. Boris Chiasny.
Nous sommes en juin. Le processus législatif peut être géré assez rapidement afin de clarifier les choses en quelques mois, afin de donner un signal fort quant à la suite des événements. Ma position en ce qui me concerne est claire, ce baccalauréat doit être supprimé. Il faut revenir au système précédent où les établissements scolaires organisaient eux-mêmes les épreuves. Enfin, il faut fixer un niveau minimum d'instruction dans le secondaire.
En attendant, au sein du gouvernement, tous les membres de la coalition sont loin d'être d'accord sur la forme et le fond que pourraient prendre ces nouvelles épreuves. Et dans l'opposition, on craint le pire pour les élèves de terminale de l'année scolaire 2012-2013. Lubomír Zaorálek, vice-président de la Chambre des députés.
Je n'imagine pas que maintenant on dise aux professeurs de but en blanc que c'est la fin. Ce serait une situation complètement chaotique.
La réforme du baccalauréat tchèque a été laborieuse et sa mise en place contestée. Désormais, c'est une réforme de la réforme qui est exigée. En tout cas, ceux qui auront à plancher sur leur copie d'un bac nouvelle version pour remettre un peu d'ordre dans ce casse-tête auront fort à faire pour ne pas obtenir un zéro pointé.
Xavier Perrault est un jeune plasticien du paysage et cofondateur du K.O. Perrault Studio basé à Los Angeles et à Paris. Originaire de Bretagne, dont la lumière est une de ses sources d'inspiration, Xavier Perrault a présenté cette semaine à l'Institut français de Prague le concept des jardins imaginaires, que l'on appelle également onirique ou surréaliste, un concept créé avec son associé Andy K.O. et qui emballe le public dans le monde entier. Dans leur création, ils utilisent des techniques traditionnelles de fabrication qu'ils appliquent à des matériaux communs et bon marché, comme grillage à poule, verre recyclé, fil de pêche, coquille ou coque de noix de coco. Et ces matériaux sont souvent associés à des matériaux de luxe comme les cristals. Le résultat, des installations artistiques à la beauté sublime, telles que des nuages ou des arbres scintillants qui donnent une nouvelle vie, une nouvelle dimension au jardin privé ou public et au site historique. Pour leur récente création, les paysagistes ont fait appel aux artistes verriers tchèques, comme nous le raconte Xavier Perrault.
Depuis le mois de mars, là, on a donc créé 3 jardins pollen. Donc, l'un d'entre eux est situé dans un château qui s'appelle le château de la Bourdésière, qui est en Touraine, donc c'est pas très loin de Tours. Le deuxième jardin pollen, qui lui est installé dans un arboretum au parc Raymond Sibille à Antony, qui est dans banlieue de Paris. Le troisième jardin pollen est installé au Potager du Roi, c'est un jardin éphémère qui va être là jusque fin juillet, donc qui est au Potager du Roi, donc à Versailles. En fait, on est installé face au bâtiment de l'École nationale supérieure du paysage, qui est la grande institution pour étudier le paysage en France. Et donc, ce qu'on a imaginé là, c'est une parcelle de blé, donc des variétés de blé anciens que nous avons semées graine par graine, une par une, selon un dessin, suivant des courbes en fait, un peu comme une calligraphie, un peu comme une estampe japonaise en fait. Donc la parcelle au-dessus de laquelle sont installées des 5000 billes en fait en verre tchèque de Bohème, qui sont chacune suspendues au bout d'une tige en métal. Donc chaque bille en fait est en mouvement au-dessus de la parcelle de blé. Donc pourquoi du blé? Parce que en fait le blé est une graminée. Les graminées sont plantes qui émettent des pollens en fait à très fort potentiel allergisant. En fait les 3 jardins pollen là parlent en fait des allergies au pollen, et donc c'est une manière de sensibiliser le grand public aux allergies du pollen. Et donc pour ce jardin au Potager du Roi, ce qu'on raconte ici en fait, c'est une sorte toutes ces petites billes en fait, ces 5000 petites billes en suspension dans les airs, sont un petit peu comme en partance en fait dans les airs. On appelle ça l'envol du pollen justement. Donc c'est une dimension. On a toujours en fait, on cherche très souvent en tous les cas cette dimension très très aérienne et très très éthérée, très poétique aussi.
Vous êtes venu à Prague à l'occasion du week-end de jardin ouvert qui a été organisé donc le week-end dernier. À Prague et ailleurs aussi. Je suppose que, comparé à ce que vous faites, les jardins tchèques sont très traditionnels. Quelle impression avez-vous de ce que vous avez vu ?
Il y a, en fait, à Prague, les jardins ont tendance à être très, très fichés, très, voilà, on est dans un format en fait, très historique. Alors, c'est assez somptueux à l'intérieur de la ville, dans Prague. Mais le problème, c'est que lorsqu'on ressort de la ville, on a visité en fait ce
Kajetanka.
Donc c'est un tout nouveau jardin qui finalement était un petit peu un choc parce que il y avait tout simplement rien à voir, quoi. Ou bien c'était très grossier. Très souvent, les paysagistes prennent des choses du catalogue et puis les refourguent dans un jardin. Et c'est exactement ça, quoi. En fait, on a des bancs ignobles qui sont sur ce site. On a des rampes pour l'escalier qui sont assez grossières. Alors que justement, je parlais du savoir-faire des artisans et que pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus que ça le savoir-faire alors que voilà. Visiblement, on préfère faire des choses très simples. Alors peut-être que c'est une question de budget, ou peut-être que c'est une question d'argent qui ne va pas là où il faudrait aller, je ne sais pas.
C'était Xavier Perrault sur Radio Prague. Vous trouverez toutes les informations sur sa création sur le site internet www.kaoperrautstudio.com. Peut-on vraiment parler pour les années 1960 de miracle cinématographique tchèque, comme l'a écrit par exemple le journaliste et critique de cinéma Antonín Lim? Ou existe-t-il des raisons plus rationnelles qui expliqueraient la formidable production de la nouvelle vague cinématographique tchécoslovaque? Antonín Lim a souligné le rôle prépondérant des studios Barrandov, construits dans les années 30 par les frères Havel, père et oncle de l'ancien président, et de leur société de production Lucerna Film comme structure de développement de la cinématographie tchécoslovaque. Mais au même moment, d'autres institutions, a priori moins attendues, ont aussi permis à de jeunes cinéastes de donner, à terme, ces lettres d'or au cinéma tchèque. C'est en effet ce que montre le travail d'Alice Lovejoy, une historienne du cinéma américaine, à travers son étude sur le film militaire tchécoslovaque, une structure de production cinématographique de l'armée tchécoslovaque. Alice Lovejoy est au micro d'Anne-Claire Veluire dans ce nouveau numéro de la rubrique historique.
Chapitre de l'histoire.
Alice Lovejoy est diplômée de Yale et elle enseigne désormais à l'Université du Minnesota. Son domaine de recherche porte sur les relations entre le cinéma et l'État, et c'est dans ce cadre qu'elle a mené cette étude sur l'histoire des films militaires tchécoslovaques, une étude qu'elle est en train d'adapter pour la publication d'un ouvrage. On écoute Alice Lovejoy.
C'est une histoire de l'expérimentation soutenue par l'État. Ça, c'est la question fondamentale du livre. Ça commence dans les années 30, quand le cinéma militaire s'est établi. C'était établi après la Première Guerre mondiale, mais dans les années 30, l'institution s'est grandie et il y avait des relations fortes entre le cinéma militaire et l'avant-garde cinématographique, photographique tchèque. Donc, je commence avec ça, avec Jiří Janíček, qui était le chef de la groupe filmique de l'armée. Et il avait des relations fortes avec l'avant-garde, avec la théorie du cinéma international. Et il essayait à créer un espace, une institution, où les jeunes cinéastes auraient le soutien de l'État pour faire les expérimentations. Donc, c'était de l'argent de l'État, c'était les ressources matérielles qu'ils ont utilisées pour faire la propagande. Mais la propagande, c'était quelque chose qui comprenait beaucoup de style, des effets esthétiques, etc.
Quel type de film il faisait, sur quel sujet?
Donc en fait, il y a trois films sur lesquels j'écris. Ces trois films sont Naše armada, Vojáci v horách et Vnový život. C'est des films qui ont tous été faits aux fins des années 30, quand il y avait besoin de la propagande pour l'État tchécoslovaque. Parce qu'il y avait surtout c'était la guerre qui approchait. Donc, ces trois films, c'est des propagations de l'État, mais en même temps, ce sont des films qui étaient faits par les gens qui travaillaient dans l'avant-garde. Par exemple, Jiří Lahovec, c'est une des cinéastes avant-garde très bien connus des années 30. Lui, il travaillait pour l'armée dans cette période. Et il a aidé Janíček à faire les premières deux films. Donc tu peux voir là les stratégies de l'avant-garde. Tu peux voir le montage expérimental. Tu peux voir le montage expérimental. Tu peux voir les cadrages innovateurs aussi. Donc toutes les choses qu'on associe avec les cinémas d'avant-garde, tu peux les voir dans ces films de propagande.
Donc cela se passe avant la Deuxième Guerre mondiale. Comment ça se passe après la Deuxième Guerre mondiale, d'autant plus que la Tchécoslovaquie se retrouve dans le bloc de l'Est après 1948.
Bien sûr, les cinéastes n'ont pas travaillé pour l'armée pendant la guerre, parce que l'armée cessait d'exister comme telle, mais après la guerre, les mêmes gens se sont trouvés dans le cinéma militaire pour les trois ans de 1945 jusqu'à 1948. En 50, le studio a changé beaucoup. Alexei Tchepichka est devenu ministre de la Défense. C'est quelqu'un qui a une mauvaise réputation pour sa coopération avec les procès, etc. C'était le mari de la fille de Gottwald, en fait. Mais c'est quelqu'un qui avait une vision de la culture militaire qui était grande. Et en fait, il a fondé beaucoup des institutions culturelles militaires, des bibliothèques, une opéra, des théâtres, etc. Et il a changé, il a transformé Armani Films en une vraie studio. Et il avait donné beaucoup de ressources financières, ressources matériaux au studio. Puis il a établi, on peut le dire que c'était un programme où les jeunes cinéastes qui ont terminé à FAMU, ils ont fait leur service militaire dans Armani Films. Donc, il y avait un lien qui était vraiment fort entre le cinéma nationalisé et Armani Films. Mais la différence importante, c'est que Armani Films, c'était le seul partie de la cinématographie tchécoslovaque après la guerre qui n'était pas une partie de la cinéma nationalisée. C'est aussi les films amateurs qui n'étaient pas une partie. Mais donc c'est important de voir qu'il y avait une institution qui était autonome, mais en même temps qu'il y avait beaucoup de ressources de se développer, de changer, de devenir ce que les gens en charge voulaient que ça soit.
Quand on pense aux années 50, on pense à un régime qui s'installe et qui se met en place et qui veut tout contrôler et qui veut tout surveiller. Comment ça se passe dans ces studios?
Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de regarder le studio par un point de vue pédagogique. Bien sûr que le studio a fait beaucoup de films d'instruction, des films qui ont introduit les nouvelles technologies soviétiques, les façons de se battre, des techniques de bataille, etc. Mais c'est des films où les jeunes cinéastes pratiquaient aussi. C'était une façon d'étudier le cinéma. Par exemple, František Blachil, c'est un des plus grands cinéastes des années 60-50. Lui, il n'était pas un étudiant FAMU, mais il travaillait pour un Armani film entre 50 dans les 50 jusqu'à en 58. Donc là, il a fait ses premiers films. Il a appris comment être réalisateur dans l'armée. Donc ça, c'est un grand exemple de comment le studio a fonctionné dans un sens pédagogique, mais avec deux sens pédagogiques. Ça pour les réalisateurs et ça pour les soldats.
Et justement, à propos de František Blachil, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 60, on retrouve aussi beaucoup de jeunes cinéastes de la nouvelle vague qui font leur service militaire au sein de ces studios militaires.
Exactement. Dans les années 60, on voit beaucoup de gens qui étaient éventuellement la nouvelle vague qui ont fait leur service militaire à Armani Films. C'est des gens comme Jan Schmidt, Pavel Juracek, Karel Vachek, Jiří Menzel, Jan Němec, plusieurs gens qui ont fait leur service de l'armée là, dans le studio. Donc, tu peux voir une espèce d'expérimentation dans le studio et je pense que c'est parce que ces films, la plupart des films, c'était pour les soldats. C'était des films qui n'étaient pas distribués. Donc, ils ont fait des courts-métrages, ils ont fait des films scientifiques, ils ont fait des journaux. Ils ont fait des films d'instruction. Et tu peux voir une espèce encore d'expérimentation là pour ces films qui n'étaient pas distribués dans un public plus grand. Mais il y avait bien sûr aussi des documentaires qui étaient distribués. Et en les 50 et 60, il y avait des films de long métrage qui étaient distribués. Comme par contre Tankova Brigada de l'année 55 et de l'année 67. Konec Srpna, Hotel Ozone, de Jan Schmidt, qui est en fait un film militaire, un film d'armée. Donc, il y avait beaucoup de genres dans lesquels les réalisateurs travaillaient. C'est plus divers qu'on penserait.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est que finalement, les jeunes réalisateurs avaient paradoxalement beaucoup plus de liberté que ce qu'on aurait pu penser au départ.
Ben exactement, c'est la contention principale du livre que c'est une institution qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de ressources et d'autonomie. Et c'était un endroit où les gens pourraient pratiquer. Mais en même temps, c'était pas une chance, de la chance que c'était comme ça. C'était délibéré. Des années 30, quand Janicek a fondé les premières studios militaires, il a pensé au studio comme un endroit où les jeunes cinéastes peuvent pratiquer, peuvent expérimenter. Et pour lui, le modèle, c'était le mouvement documentaire anglais. Et John Gerson, surtout, c'est qui était une figure immense dans l'histoire du documentaire mondial et documentaire canadien et britannique en spécifique.
Alice Lovejoy a été l'invitée d'Anne-Claire Veluire dans cette rubrique historique. C'est la fin, chers amis, du programme en français de Radio Prague. Il vous a été présenté par Magdalena Hrozinková. Merci de votre attention. À demain.